C'est-à-dire, Terah dit à Abraham, à moi tu vas raconter que des idoles peuvent se disputer. Il dit, entends ce que tu dis. C'est clair? Bon, ça c'est la manière dont le Midrash nous explique le passage au niveau d'Abraham de la religiosité telle qu'elle se trouvait encore chez Terah et qui était de bonne foi. Terah était persuadé qu'il faisait du bien à ses croyants. Okay? Et puis la mutation radicale qui apparaît avec Abraham, Abraham âgé de 3 ans. Et ça veut dire que Terah était le grand prêtre de la Mésopotamie. C'est dans sa maison qu'on élaborait les idéaux qu'on symbolisait pour la croyance du peuple. C'était le grand prêtre de la Mésopotamie, de la civilisation de ce peuple. On retrouvera ça quand on étudiera l'histoire d'Abraham. Et voilà donc un exemple. Terah, c'est un peu comme Enoch. Mais au temps d'Enoch, il n'y a pas eu un Abraham pour remettre les choses en place. Ça va jusque-là? Ça veut dire, je sens bien, quel est le problème? Il faut y réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire que des grands hommes trompent leurs fidèles, oui, de bonne foi, en croyant leur faire du bien? On leur donne des ersatz, c'est clair? Je vais vous donner un petit exemple de la pédagogie juive traditionnelle que vous rattacherez à ce thème-là. Par exemple, quand on étudie le Shulchan Aruch, le code de la pratique juive, on trouve des choses étonnantes pour les Occidentaux. Il est interdit de raconter des histoires d'enfants aux enfants. C'est interdit. Ça s'appelle gnevat da'at, leur voler leur connaissance. Et, comme on dit ça en français, tromperie. Il y a un mot plus précis.
Infantilisé.
Non, ça c'est le résultat. Supercherie. Abus de confiance. Voilà ce que je cherche. C'est un abus de confiance. Ça se traduit même dans des choses très précises. Vous savez que les jeunes parents ont l'habitude, surtout les grands-parents d'ailleurs, de parler au bébé en blablabla. C'est radicalement interdit par le Shulchan Aruch. Il faut, aux enfants, quel que soit leur âge, dès le début, leur parler la langue des adultes. C'est clair? D'ailleurs, les enfants ne s'y trompent pas. Ils savent très bien que les parents en gagatisent. Okay, on leur dit... Lolo, des machins comme ça, pimpin. Et alors, ça veut dire l'enfant est un petit homme en gestation, et puis il faut s'adresser à lui comme un adulte. Parce que si vous parlez avec lui comme un enfant, vous lui fabriquez un faux monde duquel il n'arrivera pas à se débarrasser, à moins qu'il ait l'humour de savoir que c'était les parents qui rigolaient avec beaucoup d'humour et qui jouaient aux enfants, eux. Vous avez compris le problème? Voilà, ça se rattache un peu à la même attitude. Des fondateurs de religion, le judaïsme a toujours refusé cela. C'est-à-dire de dégrader, d'infantiliser les valeurs, parce que soi-disant, elles sont bonnes pour moi, je comprends, mais lui, il est trop petit. Okay? Il faut toujours dire la vérité aux enfants. Ça, il faudra beaucoup nuancer ce que je viens de vous dire là, mais retenez-le bien. Parce qu'ils sont sensibles de façon absolue à ce qui est vrai et à ce qui est faux. Ne croyez pas que les enfants ne distinguent pas entre la réalité et le monde des faits qu'on leur raconte. Ça, c'est très passionnant pour eux, c'est le monde des adultes. Après, quand ils sont grands, ils ont compris de ce qui s'est passé dans la pédagogie des contes de fées. Mais pour eux, ne croyez pas qu'ils prennent ça pour la réalité. Est-ce que c'est clair? Ils comprennent les symboles que les adultes ne comprennent plus. Ça, c'est encore un autre problème. Et voilà un exemple, et je crois qu'il est très important à signaler. Alors, voilà ce que je vous demanderai de reprendre avec Rivon, je lui ai déjà demandé, très en détail, vous avez un premier exemple, comment travaille le Midrash. Okay, je ne croyez pas que c'est arbitraire, que puisque le mot ressemble dans les deux racines, ouchal, ouchal, commencer profané, on a fait une association d'idées. Il y a là un thème d'enseignement très important, très précis. Ça veut dire, dans la valeur positive qui est donnée à l'humanité, Enoch, il y avait ce risque. Le risque a triomphé. Échec. Maintenant, je vais à un tout autre niveau vous expliquer le mécanisme. Vous trouverez chez Abraham l'expression qu'il a invoqué le nom de Dieu. Vaikra Beshem Hashem. Ça se trouve d'ailleurs deux fois dans l'histoire d'Abraham. Cherchez-le. Sinon, je vous donnerai la référence à ce moment-là. Dans l'histoire d'Abraham, l'expression est précise. Abraham invoque le nom de Dieu. Ici, l'expression est « on a commencé à invoquer le nom de Dieu ». Alors, je vais traduire plusieurs fois de suite jusqu'à arriver à vous faire entendre ce qui se passe en hébreu. En français, commencer à invoquer le nom de Dieu, on l'entend chronologiquement. Okay. On a commencé et on a continué. En hébreu, ça a un autre sens aussi. On a commencé à invoquer, mais on n'a fait que le commencement de l'invocation. On n'a pas invoqué vraiment. On a commencé à invoquer et on s'est arrêté là. On a fait apparaître une idole. Comment ? Alors, je vous donne ça en image, tout simplement. Le nom de Dieu a 4 lettres. Si j'en indique une, il y a de la divinité dans cette lettre unique, puisqu'elle participe du nom complet. Mais comme j'ai isolé une partie de la valeur, de l'unité des valeurs, j'ai fait apparaître une idole pour elle-même. Si vous avez compris cette idée, ça suffit. C'est clair ? Commencer d'invoquer, c'est profaner. Ce que je voulais vous montrer plus profondément, c'est le lien des deux racines. Commencer une chose et ne pas l'achever, c'est profaner. En tout cas, dans ce problème de l'invocation du nom de Dieu. Okay. Je corrige tout de suite. Au niveau pratique, on doit toujours commencer ce qu'on a à faire. Lor alecha amelacha ligmor. On ne t'a pas demandé de finir, achever la perfection. Mais commencer, tu dois. Seulement, commencer dans l'intention de s'arrêter au commencement, c'est faire apparaître une fausse valeur. Valeur fausse. Les deux mots étant vrais. C'est valeur, mais elle est fausse. Pourquoi ? Parce qu'elle est partielle. Qu'est-ce que c'est que l'idole ? C'est une dimension de l'unité des valeurs. Si on a isolé une des valeurs de l'unité des valeurs, on a fait apparaître une idole. Les modernes appellent ça un idéal. Oui. Ça, vous allez peut-être être surpris. Et au niveau de la vie spirituelle, on est